c'est aussi lié à ma mère aussi, d'une certaine façon, bien entendu. Parce que c'est aussi un des plus anciens souvenirs que j'ai. J'avais 3 ans, donc, et il est passé chez nous, dans notre... du côté de Lyon, enfin dans notre montagne, pour se refaire un peu. Il était déjà dans la défense de la France. Et c'est un de mes plus anciens souvenirs. Je le vois se penchant. Il était très grand et extrêmement beau. Et se penchant sur moi dans un lieu particulier de l'appartement où nous habitions, au-dessus de la poste du village. Et donc c'est un plus ancien souvenir. Et ma mère ne s'est jamais vraiment remise de cette mort, de cette disparition. Voilà. Avant elle-même de commencer à disparaître, dès le début des années 50. Et donc, à cause du sacré, à cause de ça qui est sacré, et parce qu'aussi, il faut rappeler certaines choses aujourd'hui, je trouve. C'est-à-dire qu'il a fait partie de ces êtres, français ou autres, partout dans le monde, qui ont sacrifié consciemment leur vie. Car quand on est très jeune, on ne sait pas qu'on va mourir, bien entendu. Mais quand même, je pense qu'on le sait aussi. On sait quel risque on prend. On le sait. Vous savez, aujourd'hui, on le dit toujours. On dit toujours, les jeunes ne savent pas que... Non, je pense que quand on prend la décision de s'engager dans un réseau de résistance, quand un pays est occupé par la monstruosité que l'on sait, on sait très bien à quoi on va. Donc il n'y a pas d'inconscience. Donc c'est le sacrifice d'une vie. Et c'est le sacrifice de quelques-uns, mais de beaucoup quand même, beaucoup plus nombreux qu'on ne le dit depuis pas mal d'années. Et je voudrais dire justement que, au fond, toutes les religions, toutes les philosophies nous apprennent, nous enseignent, répètent que c'est la qualité qui vaut plus que la quantité. Et que le sacrifice de quelques-uns a sauvé autant de vies innocentes, par exemple, la vie de tous les citoyens, disons, enfin, d'origine juive, dans les pays occupés. Je crois que le sacrifice et l'action clandestine de résistants a sauvé autant de vies que la lâcheté des autres, l'attentisme des autres a pu en laisser mourir, déshonorer et massacrer d'autres. Je pense qu'il faut rappeler ça aujourd'hui, dans cette époque horriblement quantitatrice où l'on est. C'est une chose que toutes les religions, toutes les philosophies, tous les tableaux, toutes les musiques, nous apprennent. Vous savez, tout est perdu, fort l'honneur. Vous savez, la fameuse phrase de François Ier, écrivant à sa mère, Marguerite d'Anjou, je crois, après la défaite de Pavie. Tout est perdu, fort l'honneur. Thank you. Donc il s'agit des deux derniers mouvements enchaînés, comme on l'entend, comme on l'a entendu, de la suite opus 14 de Béla Bartok, jouée par une amie, Sandrine Constantin, d'une façon très, très, très émouvante, surtout, je trouve, comme Bartok doit être joué. Pas d'une façon mécanique, mais avec incertitude aussi, une certaine incertitude aussi. Et j'ai donc choisi ce morceau pour commencer en grandeur cette série d'émissions, parce que je trouve que d'abord, c'est une musique universelle qui peut être comprise partout, je crois, dans le monde entier. Elle est... Je dirais même que c'est une musique politique, parce que je trouve que la musique de Bartok est une des plus politiques qui soit, mais au sens très profond du terme, au sens presque bartokien du terme, pas d'engagement idéologique particulier, mais il y a dans cette musique toute l'inquiétude d'un homme de très grand cœur, de très grand esprit, devant l'impossibilité de l'homme à, comment dirais-je, à éviter d'agresser l'autre, je trouve, et de s'agresser lui-même aussi. Je trouve que c'est une musique extrêmement profonde, c'est une musique politique dans ce sens, dans la mesure où elle est au fond assez désespérante, comme la politique, comme tout ce que l'homme essaye de faire pour déjà vivre en société, même pas dans une société idéale, déjà vivre en société. Et c'est très sensible chez Bartok, qui est aussi par ailleurs le musicien du couple aussi, du déchirement sexuel. Du déchirement sexuel interne, et puis dans le couple. Hein, Château de Barbe Bleue, le musicien du déchirement entre la nature et la ville. Hein, la nature, enfin, ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire la vie dite naturelle, je dis bien, et la vie dite non naturelle, à savoir le béton, en quelque sorte. Le béton avec tout ce qui accompagne le béton, c'est-à-dire la prostitution, le crime, très présent dans l'œuvre de Bartok. Hein. Et c'est une musique aussi qui, je trouve, qui indique, qui est extraordinairement pédagogique, car elle montre absolument, on l'entend très distinctement, et l'interprétation de Sandrine le fait parfaitement entendre, c'est-à-dire ce qui va être, ce qui est déjà et ce qui sera la structure, comme on disait à une certaine époque, de la musique de Bartok, qu'elle soit orchestrale, chorale, pianistique, cordes, etc. Cette alternance aussi de sauvagerie, la transe, comme disait notre amie Sandrine l'autre jour, donc le premier mouvement, et ce que j'appelais la désolation de la deuxième partie. Il manque peut-être ce qu'il y a toujours dans l'œuvre de Bartok, c'est le petit moment nocturne, quoi qu'on peut peut-être le retrouver dans un petit moment de la partie désolée. Et je trouve que c'est, oui, la transe et la désolation. C'est-à-dire la transe, c'est-à-dire la société, le groupe qui fait la fête, une fête sauvage, ou qui passe sa cruauté dans une danse presque africaine. C'est extraordinaire, car il connaissait tout de même bien toutes ces musiques, hein, on le sait. Il a noté passé une grande partie de sa vie à noter. Quel exemple magnifique, du reste, de modestie, parce que le mot est à la mode, de modestie artistique. À noter donc la musique populaire de son pays et d'autres, bien d'autres, hein, en Afrique du Nord. Et on a cette transe comme ça, cette sorte d'inconscience, cette volonté d'oubli, un peu le potlatch en quelque sorte. Et puis, juste après, comme après le passage d'une armée de la guerre de 30 ans, d'une armée de brutes, de la guerre de 30 ans, et on est presque dans le monde de Callot, de Jacques Callot, hein, des désastres de la guerre. Je trouve qu'on entend même les gens qui restent, les restes de gens, les restes d'êtres humains, mutilés, etc., qui cherchent quasiment leurs membres. Comme les notes se cherchent même à un certain moment. On a l'impression qu'ils cherchent des choses qui restent, des choses enfumées ou cassées, ensanglantées, des linges, des outils, et c'est fini. Voilà.
Alors nous nous embarquons aujourd'hui dans une longue série de 25 émissions d'une demi-heure avec une entorse à la règle de cette série qui veut qu'on n'entendra que vous et ne prendra pas du tout la forme d'un entretien. Mais nous avons estimé utile de donner quelques clés de cette série et de la logique ou des principes qui prévalent. Ce qu'on peut dire, c'est que, au fond, on va, au fil de ces demi-heures, entrer dans votre rapport intime à la musique.
Oui, parce que j'ai choisi un ordre, pour parler de la musique, j'ai choisi un ordre très simple, qui est l'ordre que j'utilise en général, du reste, presque en tout, c'est l'ordre chronologique. C'est-à-dire, c'est sans doute peut-être un défaut mental, encore, qu'il faudra que je corrige, mais je pense que l'ordre dit chronologique est le meilleur, je crois. Donc je commence pour parler d'une énormité, comme la musique, essentiellement la musique, enfin, en grande partie la musique occidentale classique, dite classique, la grande musique, comme on dit, comme on disait, on ne le dit plus, je crois. La chronologie, donc je commence par les musiques que j'ai entendues, même que mes ascendants ont entendues à Paris ou ailleurs, en Pologne, etc. Et essentiellement en concert, pas en disque, puis par les musiques que j'ai commencé à entendre, qu'on m'a fait entendre, le piano, mes sœurs au piano, ma mère, avec sa très belle voix, nous avons tous du reste quelque chose dans notre fratrie, en quelque sorte. Et les musiques que j'ai commencé à comprendre un peu plus consciemment par le disque, parce que je suis au fond allé assez peu au concert dans mon existence. Pour des raisons biographiques, pour des raisons de lieu. Et de l'enfant, de l'adolescence, on passera très vite à quelque chose, à une chronologie plus, enfin, à la fois historique, historico-biographique, mais beaucoup.
Scandé par l'écriture de votre...
Oui, scandé par déjà les débuts, disons, les débuts de cette vocation. Il faut appeler ça une vocation, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Vocation, qui, contrairement à ce que l'on croit toujours, ne se vit pas forcément dans le plaisir. Ainsi, on entendra beaucoup de la musique de Robert Schumann, car c'est le musicien qui, pour des raisons évidentes pour certains et pas évidentes pour d'autres, c'est vrai que ce que j'écris est assez loin, c'est même tout à fait à l'opposé, mais c'est le musicien qui, très tôt, dès l'enfance, dès les premières choses entendues, trop de ce scherzo, cet extraordinaire scherzo de la première symphonie, dite le printemps, que j'ai entendu extrêmement tôt et qui m'a bouleversé, mais jusqu'au tréfonds, et que je n'écoute même aujourd'hui, quand je l'écoute, je suis absolument bouleversé encore. Et c'est un mouvement de marche. On verra du reste dans le déroulement des opérations, l'opération que, en fin de compte, la marche, curieusement, la marche musicale, le marcato, peut-être italien, est peut-être la forme de rythme que je préfère, peut-être, dans la musique. Donc, alors, assez rapidement, dans le début de l'adolescence, là, voilà, il y a la découverte de la musique en même temps, en quelque sorte, que la découverte de cette vocation et le soutien de la musique. Et beaucoup, donc, de Robert Schumann en tant que grande figure du romantisme allemand. Donc d'une poésie que je découvre à ce moment-là et qui m'apporte énormément, comme à beaucoup d'autres. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Et qui est à ce moment-là comme une sorte de frère, de père, de père artistique, hein, de père même moral, de modèle moral même, y compris sa conjugalité, qui à l'époque me touche énormément. Mais pas dans la musique. Pour moi, Schumann est très tôt pour moi, enfant, le combattant, quelque sorte, des limites, c'est-à-dire contre les limites de la raison, le combattant des limites. Donc, ce qui indique que cette vocation est à très tôt quelque chose d'assez sérieux, au fond, d'assez fort, voilà.
Musique de Pierre Guyotat. Chanson de Solveig, extrait de Peer Gynt de Grieg, chanté par Elisabeth Schumann en 1936. La suite, opus 14 de Bartok, au piano Sandrine Constantin. Troisième mouvement de la symphonie numéro 1, dite Le Printemps de Schumann, par Charles Munch, Boston Symphony Orchestra. Équipe de réalisation, Pierre Monteil, Valentina Parlato, Jacques Taroni.